Ben, Dadi a parlé un peu de l'ascension. C'est vrai que on profite de ce beau week-end de 4 jours. On est très contents, les personnes qui pouvont en profiter. Tout le monde ne peut pas en profiter, mais les enseignants, souvent, peuvent. Et je suis content de voir qu'il y a quand même des enseignants ici au lieu d'être en train de se balader. Ça sent le week-end, les vacances arrivent et il y a déjà les bouchons sur l'autoroute, c'est super agréable. La pluie du mois de mai. C'est vrai que la pluie nous plombe un peu l'ambiance. Si vous êtes en plus irlandais, vous êtes triste ce matin vu l'issue du match hier soir. Mais je sais que tout le monde ne regarde pas le rugby. Dans nos vies, nous avons sûrement plein de raisons pour nous réjouir, mais c'est vrai que les temps sont moroses. Et ces dernières années, nous avons été éprouvés en tant qu'Église. Nous avons traversé la pandémie. Cela a laissé des traces. On oublie vite ce que nous avons traversé, là où on était il y a 3 ans. Et heureusement qu'on oublie, parce qu'on ne peut pas rester dans cet état de stress permanent. Mais il est vrai qu'à ce moment-là, nos certitudes ont été ébranlées, notre mode de vie a été mis à mal. Et puis, maintenant, les nouvelles ne sont pas forcément très très bonnes. L'agitation de la vie a repris et il y a eu d'autres épreuves qui se sont enchaînées. Nous avons laissé des plumes. Et bon, dans le calendrier liturgique, l'Ascension, ce n'est pas la grosse fête. Il faut avouer que on m'a dit, viens ce week-end-là, cette date-là. Moi, je n'ai pas vérifié. Je me suis dit, bon, ça doit être un week-end normal. Et si c'était Noël, c'est la grosse fête. Si c'est Pâques, c'est la grosse fête. Mais l'Ascension, on ne fête pas particulièrement l'Ascension. Pentecôte, oui, l'Esprit Saint qui vient. Mais l'ascension, c'est pas forcément un sujet de réjouissance dans le calendrier liturgique. Parce que, en fait, ce que l'on fête à l'ascension, mine de rien, c'est que Jésus, notre ami, notre sauveur, il est parti. Il nous a laissés seuls. Donc, on fête un départ, un au revoir. Mais ce n'est pas n'importe quel départ. C'était la personne qui nous avait montré la voie du salut, le bon berger qui était prêt à aller nous chercher quand nous étions perdus, quand on était coincé face au précipice. Pendant 3 ans, les apôtres ont suivi Jésus. Ils se sont abreuvés de ses paroles. Ils ont vu en lui celui que l'humanité attendait depuis toujours. Et puis un jour, il est en train de manger avec eux et il part. Je voulais m'attarder sur le texte. On va le lire, le texte d'Actes des Apôtres. Donc, c'est la continuation de l'évangile de Luc. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Là, ils s'emballent. Donc, ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le règne pour Israël? Et il les calme. Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez quand même une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel, comme une fusée, d'où le dessin de la fusée, pendant que tous le regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand 2 hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. C'est peut-être les moments les plus tristes de la vie quand on doit dire au revoir à quelqu'un, au revoir à quelqu'un qui nous est cher, parce que nous devons nous séparer de nos proches. Quand on doit quitter son pays et dire au revoir à sa mère à l'aéroport, c'est toujours un moment, un pincement, plus qu'un pincement au cœur, c'est un déchirement, je pense. La psychanalyse, bon, ma femme n'est pas là, donc je peux dire des choses sur la psychanalyse. Elle met l'accent sur le concept de perte et de deuil. Lorsque nous nous séparons de quelqu'un qui est très important pour nous, cela peut provoquer un sentiment de perte. Et la psychanalyse soutient que ce processus de deuil est essentiel pour faire face à cette séparation et pour pouvoir progresser émotionnellement. Mais la perte de quelqu'un, la perte d'une relation peut nous remettre en cause, peut remettre en question notre image que nous avons de nous-mêmes et provoquer des sentiments d'insécurité, de vulnérabilité. Mais la séparation peut être vue aussi comme une opportunité. La question que je me suis posée en préparant cette prédication et que je veux partager avec vous, c'est: pourquoi est-ce que l'ascension était nécessaire? Pourquoi mettre cette date-là, ce moment de séparation? Pourquoi Jésus, après sa résurrection, après être resté 40 jours manger, boire avec ses disciples, partager ces moments-là, pourquoi il doit partir? Il avait déjà fait tout le travail, il était déjà mort à notre place pour payer pour nos péchés, pour emporter tout le péché du monde. Et puis il a ressuscité. Alors pourquoi quitter la terre? Ce serait peut-être plus facile pour nous, en tant que chrétiens, s'il était là, à nos côtés, présent physiquement. Et donc, la première réponse à cette question que j'ai trouvée, c'est que l'ascension est importante parce que c'est l'accomplissement des Écritures. Le départ de Jésus était déjà considéré comme une partie du plan de Dieu, parce qu'il avait été prophétisé déjà dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 110, je vais le lire parce que je ne l'ai pas noté, il dit: Déclaration du Seigneur Dieu à mon roi, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Et puis dans Daniel aussi, il y a cette prophétie, une vision qu'a eu Daniel, dans laquelle il disait: Je continuais de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Je voyais venir quelqu'un qui ressemblait à un être humain. Il venait parmi les nuées des cieux. Il s'avança en direction du vieillard devant lequel on le conduisit. La domination, la gloire et la royauté lui furent données afin que les gens de tous les peuples, de tous les pays et de toutes les langues le servent. Sa domination durera pour toujours, elle n'aura pas de fin et son royaume ne sera jamais détruit. La domination, la gloire et la royauté. Nous oublions parfois que l'accomplissement de la mission de Jésus, c'était de monter sur le trône. Il y a quelques jours, nous avons vu l'image de Charles d'Angleterre, prince de Galles, pendant de nombreuses années. Il accède au trône d'Angleterre à l'âge de 73 ans. Il a dû attendre ce moment pendant 73 ans. Sa mission, son rôle était celui d'être roi, et il a dû attendre toute sa vie pour accomplir cette mission. Pour nous aujourd'hui, cette image d'un roi qui se fait couronner, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est plus de l'ordre du symbolique, étant donné en plus le rôle du roi dans la politique britannique, qui n'est pas très important. Nous oublions parfois ce que veut dire que Jésus est roi. Peut-être parce que cette figure de roi ne nous parle plus, on devrait dire président ou je ne sais pas. Empereur. Mais c'est peut-être aussi parce que nous n'avons pas trop l'habitude de nous représenter Jésus comme un roi. Là, aux enfants, on représente l'image de Jésus comme quelqu'un de très accessible, celui qui a marché à côté des enfants. Il est plus pour nous un ami qui nous est cher, qui est compréhensif, qui est à nos côtés. Nous accourons à lui comme si c'était le ChatGPT, notre intelligence artificielle prête à répondre à toutes nos réponses et à toutes nos requêtes. Mais nous oublions que c'est lui qui est le roi des rois. Le départ de Jésus signifiait son entrée dans le règne céleste en tant que souverain. Jésus est désormais assis à la droite de Dieu le Père, exerçant son autorité sur toute la création. Peut-être nous devons laisser Jésus prendre dans nos vies la place qu'il est destiné à prendre. Nous devons le laisser monter dans nos vies. C'est plus facile parfois de dire « règne sur ce pays, règne sur ta création ». C'est plus facile ça que de lui dire « règne en moi, dans mon cœur » et de le laisser faire, de le laisser prendre cette place. Nous voulons toujours prendre le contrôle dans nos vies. C'est subtil. Nous avons tendance à laisser nos projets prendre une place centrale au lieu de laisser cette place centrale à Jésus. Je laisse monter dans ma vie mes désirs, mes besoins, mes incertitudes, mes peurs. C'est très facile, par exemple, de m'apitoyer de mon sort, de mettre les projecteurs toujours vers moi au lieu de les mettre sur lui. Lorsque Jésus montait au ciel, j'imagine que les disciples avaient plein de questions. Pourquoi il part? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, qu'est-ce que je vais devenir? Et lorsque le nuage a effacé l'image de Jésus, leur vie même s'assombrit. C'est leur vie qui est devenue opaque. Comme la nôtre, lorsque nous laissons que notre volonté, notre chagrin, notre travail, notre orgueil, nos besoins prennent la place que seulement Jésus doit avoir, celle de roi. La deuxième raison pour laquelle Jésus devait partir, je pense, c'est le fait qu'il fallait que l'Esprit Saint vienne. Il fallait que Dieu nous envoie son Esprit Saint. Jésus a promis à ses disciples qu'il leur enverrait cet Esprit Saint pour les guider, pour les consoler, pour les fortifier dans leur mission. Et c'est ce qu'on va fêter à la Pentecôte la semaine prochaine. Il dit à ses disciples qu'il était préférable pour lui de partir afin que le Consolateur puisse venir sur eux. Dans Jean 16, versets 5 à 7, Jésus leur parle. Ils sont en train de manger ce dernier repas avant que Jésus soit emporté pour être jugé et crucifié. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais puisque je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Parce qu'il était en train de parler de toutes les persécutions qu'ils allaient subir une fois que lui serait parti. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si Jésus ne partait pas, l'Esprit Saint de Dieu ne pouvait pas descendre sur les disciples. Mais cette venue était liée au départ de Jésus et faisait partie du plan de Dieu pour l'accomplissement de son dessein de salut. Il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles le Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant le départ de Jésus. D'abord parce que la mission de Jésus n'était pas finie. Il fallait marquer la fin de la mission de Jésus, qui comprenait sa mort, sa résurrection, l'enseignement aux disciples. Le départ de Jésus marquait donc la fin de son ministère et le début d'une nouvelle phase pour ses disciples. La deuxième chose, c'est que Jésus a enseigné à ses disciples que le Saint-Esprit serait envoyé en son nom. Dans Jean 14, 26, il dit « Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La venue du Saint-Esprit était donc liée à l'œuvre de Jésus et à son autorité même, parce que c'était dans le nom de Jésus que l'Esprit Saint venait. Et puis, le Saint-Esprit est important, j'imagine qu'on va en parler la semaine prochaine, parce que le Saint-Esprit a un rôle particulier qui est celui d'équiper et de guider les disciples dans la mission de répandre l'Évangile et d'établir l'Église. Le rôle de l'Esprit-Saint est fondamental, mais je ne sais pas si peut-être une métaphore peut m'aider. Moi, j'aime bien la course automobile. Bientôt, il y a le Grand Prix de Monaco. Et il y a quelques années, je regardais de manière récurrente les Grands Prix. Et les gens qui ne suivent pas trop la Formule 1 ne se rendent pas compte de l'intérêt que ça peut avoir si on n'est pas dedans. Moi, je trouve que le côté technique est passionnant, mais le côté humain aussi est très intéressant. La rivalité entre les pilotes, par exemple. Vous savez comment ça se passe? Le pilote qui est dans sa voiture a une oreillette. Et il y a un ingénieur assis sur le paddock qui est en train de lui parler. Et lui, il est en train de parler seulement à son ingénieur. Au lieu de parler à tout le monde, il y a une seule personne à laquelle il doit s'adresser. Si vous imaginez, si tout le monde vous parlait en même temps alors que vous êtes en train de rouler à 320 km/h sur une ligne droite, imaginez le problème. Donc il y a une seule personne qui est autorisée à lui parler. Et les discussions sont toujours intéressantes. Mais si je devais donner à Jésus un rôle dans la course automobile, je ne choisirais pas la Formule 1. Moi, je choisirais plutôt le pilote de rallye. Dans la voiture de rallye, il y a le pilote, il y a à côté le copilote, celui qui a la carte sur les genoux, et qui lui dit à droite, à gauche, et la communication doit être parfaite. Le pilote ne fait que regarder la route, il écoute, il doit suivre les instructions. Et s'il ne suit pas les instructions du pilote, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, ils finissent dans le ravin. Et j'aime bien la tête du copilote qui dit, je te l'ai dit, tu ne m'as pas écouté, j'avais dit droite, l'autre droite. Nous aimerions que Jésus soit comme ce copilote de rallye, qu'il soit toujours là, à côté de nous, qu'il s'assoie à côté et nous dise quoi faire, qu'il se prenne le tonneau avec nous, qu'il partage nos souffrances, qu'il approuve nos décisions, qu'il adopte mon point de vue, pouvoir lui dire « je suis un humain, je me trompe, moi aussi, c'est normal, regarde, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai beaucoup de travail, j'ai des factures à payer, les enfants sont insupportables aujourd'hui, mon boss n'arrête pas de m'embêter, de me mettre la pression. Les voisins sont fous. Le coût de la vie explose. Alors je ne peux pas faire autrement. C'est normal que je réagisse comme ça. Dans la prière que Jésus nous a appris, dans le Notre Père, la prière ne commence pas par dire « Donne-nous notre pain de chaque jour et délivre-nous du mal. » Nous devrions nous écouter, nous devrions écouter la manière dont on prie. Peut-être pas ici à l'église, il y a des réunions de prière dans lesquelles on met toutes les formes, on se met en cercle et on a une certaine façon de s'adresser à Dieu quand on est en communauté. Mais comment est-ce que nous nous adressons à Dieu lorsque nous sommes tout seuls, lorsque nous sommes dans notre voiture, lorsque nous sommes dans la situation de stress? Dieu, aide-moi à payer mes factures. Mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où est-ce qu'il se croit? Donne-moi la solution à ce problème que j'ai. Mais je n'ai pas le temps de dire « Notre Père qui est aux cieux ». Non, J'ai besoin d'une réponse immédiate. Et souvent, on utilise Dieu pour avoir des réponses immédiates à nos besoins. Mais Jésus nous disait, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Notre Père commence par « Prends le contrôle de ma vie ». Et nous n'avons pas l'habitude de laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. Jésus, avec l'ascension, il est descendu de la voiture. Ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Il nous a mis plutôt sur une monoplace, comme le pilote de Formule 1. Il nous a mis l'oreillette et il a mis son ingénieur, l'Esprit Saint, dans l'oreillette. Nous ne pouvons pas, quand nous sommes dans une Formule 1, regarder derrière, à gauche, à droite. Nous devons juste écouter la voix de Dieu. Jésus n'est pas là pour nous faire des tonneaux avec lui. Il est là pour nous aider. Il nous a donné l'Esprit Saint pour gagner. L'Esprit Saint n'a pas la carte sur les genoux. Au contraire, il a tout le plan de Dieu. Toutes les télémesures. Il a le pouvoir de nous faire gagner. Je ne sais pas si vous avez regardé Drive to Survive, une série sur Netflix, Conduire pour survivre. Et là, on voit les pilotes, leur réaction, leur interaction avec les ingénieurs. Le plus dur, c'est quand l'ingénieur nous dit « Laisse l'autre passer. » Parce qu'il y a la stratégie de course. Le pilote qui est dans sa voiture, il ne voit pas toute cette stratégie-là. Et lui, sa seule envie, c'est d'appuyer sur la pédale. C'est la même chose dans nos vies. Souvent, Dieu nous dit « Laisse passer, laisse tomber. » Et c'est là où c'est peut-être le plus simple, le plus difficile, au contraire. C'est qu'on se rend compte que le but, ce n'est pas vraiment de gagner la course, mais de gagner le championnat. Donc, la première raison, si je résume, pour que Jésus doive partir le jour de l'Ascension, c'était d'abord pour qu'il puisse prendre sa place à la droite du Père. La deuxième, c'était pour que l'Esprit Saint puisse venir nous aider. Et la troisième raison est que Jésus est monté pour nous préparer un lieu. Pour préparer un lieu pour ses disciples. Jésus a déclaré à ses disciples qu'il allait préparer une place dans la maison du Père, dans Jean 14, versets 2 et 3. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Son départ était donc une étape nécessaire pour accomplir cette promesse et pour préparer un lieu éternel pour ceux qui croient en lui. Je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais compris en quoi consiste vraiment ce lieu éternel. Comment est cette place ? Est-ce qu'elle est personnalisée? Pourquoi il devait partir nous préparer la place? Si moi je dois choisir, alors moi je choisis la vue, une belle vue sur la rivière multicolore, orientation sud-ouest pour voir le lever du soleil le matin. Je veux un lit grand, plutôt ferme, parce que j'ai des problèmes de dos. Une petite bouteille d'eau sur le chevet, merci. Je veux avoir Canal Plus et les repas aussi. Non, je ne pense pas que c'était ce que Jésus voulait dire. Je ne pense pas qu'il faisait référence à ces commodités matérielles. Je pense que Jésus devait nous préparer la place dans le sens où il devait lui-même rentrer dans ce lieu. Mais Jésus a une double nature, humaine et divine. En tant que Dieu, Jésus peut reprendre sa place tout naturellement à la droite du Père. Mais il devait y accéder en tant qu'homme, pour que nous, nous aussi en tant qu'homme, nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Je ne sais pas du tout comment est cette demeure, ce que nous devons savoir et qu'elle est faite pour nous, avec notre identité, avec notre nature humaine transformée par la grâce de Dieu. Il y a une petite anecdote avec laquelle je vous laisser. Je ne sais pas si je l'ai déjà racontée, peut-être je deviens vieux moi aussi, je radote. C'est un livre d'un monsieur qui s'appelle Ray Steadman et qui s'appelle « Talking to my father ». Il raconte une anecdote d'un couple de missionnaires américains, oui, évidemment, qui sont allés en Afrique pour prêcher l'Évangile pendant de nombreuses années. Ils ont passé toutes leurs années de ministère en Afrique pour prêcher l'Évangile. Et à la fin, ils arrivent à l'âge de la retraite. Ils sont vieux, ils sont malades, ils ont des soucis de santé. Ils sont fatigués. Et donc, ils rentrent. Ils sont obligés de rentrer. Leur mission est finie. Et à l'époque, ce n'était pas en avion, c'était en bateau. Ils prennent le bateau pour rentrer. Et quand ils sont sur le bateau de retour, ils se rendent compte que dans le bateau, il y a un autre passager important, Monsieur Theodore Roosevelt, qui en l'occasion, c'était le président des États-Unis. Donc dans le bateau, tout le monde était autour de Theodore Roosevelt, tout le monde voulait s'approcher, c'était la grande personnalité, ils voulaient le toucher, parler avec lui. Pendant le voyage, il a dit à sa femme, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monsieur, Theodore Roosevelt, il n'a rien fait. Il était en vacances, il était à la chasse pendant quelques jours, là. Il a rien fait de spécial. Nous, on a dédié toute notre vie au service du Seigneur. On s'est oublié, on a abandonné toutes nos commodités matérielles. On a donné notre vie au Seigneur, et c'est lui qu'il regarde, c'est lui qu'il salue, c'est lui qu'il félicite, et nous, on ne dit rien. Et sa femme lui dit, tu ne devrais pas penser comme ça. Ce n'est pas très, très chrétien de sentir ça. Et lui, il lui disait, mais ça ne m'aide pas ce conseil. Simplement, ce n'est pas juste. D'un point de vue objectif, ce n'est pas juste. Le bateau arrive à New York, au terminus, et ils descendent. Et évidemment, il y avait toute une fanfare pour accueillir le président des États-Unis. Le maire en personne était là pour l'accueillir. Et il y avait plein de journalistes, ça faisait la une des journaux du lendemain, simplement le président des États-Unis qui revenait de ses petites vacances. Mais là, sur le quai, il n'y a personne pour accueillir ce vieux couple de missionnaires. Pas un seul membre de l'Église est venu pour les accueillir et leur dire « Bienvenue chez vous à nouveau ». Donc ils descendent du bateau, ils se trouvent une petite chambre à deux sous, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour passer la nuit, en pensant le lendemain à trouver un autre logement plus décent. Et là, le soir, dans cet appartement, le missionnaire craque. Il craque totalement, il dit « Je ne peux pas l'accepter. Dieu n'est pas juste. » Et sa femme le voit totalement désespéré, ne sait pas quoi lui dire, il lui dit « Écoute, si tu te sens vraiment comme ça, va dans la chambre et prie Dieu. Dis-lui, ce n'est pas juste. Dis-lui comment tu te sens. » Et le lendemain, le vieil homme se lève et sa femme est dans le salon et il voit que lui, il est totalement apaisé, il est totalement transformé. Et il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et il a dit, le Seigneur est venu. J'ai senti sa présence. J'ai senti qu'il est venu s'asseoir à côté de moi. Je lui ai dit que j'étais déçu, que j'étais aigri, que j'étais triste de savoir que, alors que le président était si bien accueilli, moi je n'étais pas accueilli, que personne n'était venu nous accueillir quand on revient chez nous. Et j'ai senti alors la main du Seigneur sur mon épaule, qui me disait, mais tu n'es pas encore rentré chez toi. Nous oublions parfois que nous ne sommes pas chez nous ici sur la terre, nous ne sommes que des passagers, et que le ciel où Jésus nous attend, ça c'est chez nous. Nous avons l'habitude de chercher ici sur cette terre l'accomplissement, la réussite, et c'est bien. Mais notre véritable trésor est là-haut, dans le ciel, avec lui. Je vous invite donc à ce que nous laissons régner Dieu dans nos vies, que nous laissons l'Esprit Saint nous guider, et surtout que nous laissons Dieu nous accueillir dans son plan parfait.